Ici Raymond Perron qui vous accueille avec joie et chaleur à l'émission Paroles du matin. Donc bienvenue et j'espère que vous allez bien en ce beau matin. J'espère que votre cœur est tout entier pour le Seigneur et qu'il les remplit de ce fait, de sa paix et de sa joie. Tout de go, n'est-ce pas? Tout de suite, nous allons à la parole de Dieu, livre de Daniel. Et nous poursuivons là où nous avions laissé. En fait, nous faisons plus que cela. Nous faisons une sorte de révision ce matin. Nous allons revenir sur les débuts du chapitre 2. Lors de notre dernière émission, nous avions considéré les versets 1 à 13. Nous allons les survoler à nouveau aujourd'hui, mais nous allons étendre un peu plus loin nos tentacules, si vous me permettez l'expression de la pieuvre, n'est-ce pas? Nous allons voir une plus grande partie de la péricope alors que nous irons jusqu'au verset 23. Donc, maintenant, je vous lis Daniel, chapitre 2, les versets 1 à 23. La seconde année du règne de Nébuchadnetsar. Nébuchadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour une seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. » Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, et qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Alors voilà, nous nous arrêtons ici ce matin et nous allons réfléchir sur ce qui nous est ajouté, entre autres, à partir du verset 14, mais auparavant, un survol rapide, donc des versets 1 à 13. Au terme du chapitre 1, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Dieu a accordé trois privilèges particuliers à Daniel, à la suite de la décision de ce dernier de ne pas se souiller avec la nourriture et la culture babylonienne. Daniel s'est vu octroyer, premièrement, une sagesse supérieure à celle des membres de la cour du roi. Par ailleurs, il s'est vu accorder une influence aussi, surpassant celle de tous les conseillers. C'est ce que nous voyons à la fin du chapitre 1. Son influence surpasse tous les conseillers de Nebuchadnezzar. Et troisièmement, il s'est vu donner une santé qui a eu comme résultat une très longue vie. Il est mort nonagénaire dans les 90. Cependant, alors que nous arrivons au chapitre 2, il ne semble pas que ces trois grâces-là, sa sagesse, son influence et sa santé, aient encore été vraiment reconnues par le roi. En fait, à la fin de sa période de préparation, ce qui s'est vraisemblablement produit, c'est que Daniel et ses compagnons, ils ont joint la compagnie des sages et des hommes d'État, que le verset 2 décrit en termes de magiciens, astrologues, enchanteurs et chaldéens, et, qu'ils n'étaient pas nécessairement le plus prééminent du groupe. Il nous faut garder d'ailleurs à l'esprit qu'ils n'étaient âgés à ce moment-là que de 18 ou de 19 ans, c'est encore très jeune, et que plusieurs dans ce groupe de conseillers avaient déjà servi le roi, les rois même babyloniens depuis plusieurs années, avaient même servi avant Nebuchadnezzar et maintenant servaient ce dernier depuis 2 ans, et ils étaient beaucoup plus influents que lui. Et au sein de ce conseil-là, Daniel n'était plus ou moins qu'un conseiller de banc arrière, ce qu'on appelle un backbencher en termes contemporains en politique. Et lorsque Nebuchadnezzar a eu son rêve, ce qui représente l'épisode central de ce chapitre d'ailleurs, à qui s'enquiert-il? Il s'enquiert auprès de ses sages, et selon toute évidence, Daniel n'a pas été consulté. En fait, on voit qu'il ne savait même pas ce qui se passait jusqu'à ce que Arjok, n'est-ce pas, survienne avec l'ordre du roi d'exécuter les conseillers. C'est ainsi que Daniel se retrouve sous la même sentence de mort que tous les autres. Cependant, cette sentence de mort, comme on va le voir, va devenir l'occasion pour Daniel, ou devenir l'occasion pour Dieu, d'amener Daniel à l'avant-scène. Dieu réalise ses projets pour ses enfants. C'est ainsi que nous voyons la souveraineté de Dieu. Elle est bien active, n'est-ce pas, dans les affaires de ce jeune homme. En fait, la souveraineté de Dieu sous-tend chaque événement rapporté dans ce livre dont c'est le thème. Vous savez, si Dieu ne contrôle pas nos vies, depuis les actions des rois et les actions des autres en situation de pouvoir jusque dans les moindres détails, qu'est-ce qui reste dans cette vie? Il ne reste que l'incertitude. Il ne nous reste qu'à mettre sur le trône le hasard. Ça arrive par addon, ça arrive par accident. Ou nous risquons constamment de devenir victimes des circonstances. Fort heureusement, c'est pas ainsi que ça se passe. Ce n'est pas le hasard qui contrôle le monde, mais c'est le Dieu souverain qui est Seigneur, qui est sur le trône de nos vies. Comme dit si bien ma femme, n'est-ce pas? Dieu est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. Alors, si comme la Bible affirme, Dieu est souverain et s'il est notre Dieu, si ses promesses verront leur accomplissement avec certitude, alors là, nous pouvons vivre en toute confiance et nous reposer entre ses mains puissantes. Donc, mon premier point, le roi a un rêve. La seconde année du roi Nebuchadnezzar, verset 1, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Comme on le disait lors de l'émission précédente, Nebuchadnezzar n'est pas le premier monarque de l'histoire, non plus qu'il sera le dernier à avoir des rêves troublants. Hein? Les hommes d'État sont souvent hantés par le passé, les décisions qu'ils ont prises, ou encore par la pression du présent, et ils peuvent également nourrir toutes sortes de pressentiments pour l'avenir. Cependant, le rêve de Nebuchadnezzar ne se situait pas dans cette catégorie, pour la simple raison que c'est un rêve qui venait de Dieu, même si le roi, là, ne reconnaissait pas ce Dieu-là. Et puisque ce rêve était d'origine divine, il se voulait donc une révélation divine, une révélation certaine, une prophétie d'événements à venir. Mais, bizarrement, Nebuchadnezzar ne pouvait plus se rappeler de son rêve. Cependant, il avait autour de lui des gens qui étaient supposément équipés, capables de composer avec de telles situations. C'est ainsi qu'au verset 2-3, nous lisons, il fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant leur roi. Que leur dit le roi? Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Il est particulièrement intéressant d'observer quelque chose de tout à fait spécial ici, dont je n'ai pas fait mention lors de l'émission précédente. On va le faire ici. À partir du verset 4 de ce chapitre 2, et ce, jusqu'à la fin du chapitre 7, le texte est écrit en araméen et non plus en hébreu, comme le reste du livre. Hein. Nous savons que la quasi-totalité de l'Ancien Testament est rédigée en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Mais il y a quelques exceptions. Et nous sommes ici devant l'une de ces exceptions-là. À partir du verset 4 du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 7, c'est écrit en araméen. Pourquoi? Ben, ça nous suggère que la première partie du livre, les chapitres 2 jusqu'au chapitre 7, traite de choses qui se produisent à Babylone. Pour Daniel et ses amis, choses qui concernent Babylone, et en conséquence, ben, elles sont rédigées dans la langue des Babyloniens, c'est-à-dire en araméen. Cependant, dans la deuxième partie du livre, à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 12, les événements concernent davantage le futur des Juifs, et donc, de ce fait, ils sont rapportés en hébreu. Voyez, subtilité de la grammaire divine. Hein? C'est donc ainsi, verset 4, que nous lisons, « Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Nebuchadnezzar ignore complètement leur requête et il répète son exigence en y ajoutant la menace ultime. C'est la menace ultime ou la récompense extravagante selon la capacité de ses supposés devins. Versets 5 à 6, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Le verset 7, comme on est en droit de s'y attendre, laisse transpirer une note de désarroi chez ces pauvres gens, ces pauvres conseillers. Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Hein? » Il vous est peut-être déjà arrivé de passer une entrevue pour un emploi qui s'est mal déroulée et ça allait de mal en pis. Ben, c'est le cas ici. Nebuchadnezzar ne semble aucunement en mode patience ou en mode négociation. Verset 8-9, le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Hein? Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Ben voilà, tout le personnel de devins est menacé. Et le syndicat des devins, des enchanteurs, des chaldéens et des magiciens ne pouvait élever aucun grief, n'est-ce pas? Les carottes étaient cuites. Vous me dites le songe ou on ferme boutique. Le roi leur demande, comme on disait lors de la dernière émission, un miracle auxquels ils n'ont pas accès, d'où leur juste réaction, versets 10 et 11, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Hein? » Ils lui disent très gentiment, « Le roi a un problème dans la bottine, là. Hein? Si le roi était mentalement équilibré, il sait très bien que ce qu'il demande n'a pas de sens. » Et il ajoute, « Il y a cependant un dieu au ciel, où, hein, ce qu'il demande le roi, seuls les êtres célestes peuvent le faire. Oui, il y a un Dieu au ciel qui se révèle aux hommes et, comme le dira plus tard, et qui le dira plus tard d'ailleurs par la plume d'Amos, chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et dans le cas qui nous occupe, Dieu allait révéler à Daniel ce qu'il allait faire. Voilà. Et nous assistons maintenant à une réunion de prière fervente et efficace. Daniel avait été absent de la confrontation. Il n'était pas là, lui, lorsqu'il y a eu rencontre entre les conseillers de Nebuchadnezzar et le roi. Cependant que ça ne l'exemptait pas pour autant d'avoir part à la sentence des autres. Ce dont il fut informé par Arjok, le chef des gardes. Et c'est ici qu'on voit une grande mesure de foi. Une grande mesure de foi et conséquemment une grande mesure d'audace exprimée par Daniel, ce jeune homme, qui se rend auprès du roi pour demander un peu de temps pour révéler à ce dernier le contenu et l'explication de son rêve. Il n'y a aucun doute, voyez-vous, que Daniel était versé dans l'Ancien Testament et qu'il était bien au fait de ce qui s'était passé là, précédemment. Nous lisons d'ailleurs qu'il était au fait de l'histoire de Joseph, entre autres, et comment Joseph avait donné à Pharaon l'interprétation de ses songes. Et voilà que lui, Daniel, se retrouve dans une situation à peu près semblable. C'est intéressant d'ailleurs de noter que dans ses paroles à Nebuchadnezzar, il emploie à peu près les mêmes propos que celles que Joseph avait tenues à Pharaon. Écoutez ce qu'il raconte à Nebuchadnezzar au chapitre 2, verset 27-28, Daniel. « Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Écoutez maintenant les propos de Joseph à Pharaon. Genèse chapitre 41, verset 16-25. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va connaître. » Voyez-vous, dans les deux, on a le même propos. Il n'y a personne sur la terre qui peut faire connaître l'interprétation, le secret de ce rêve-là, mais il y a un Dieu au ciel qui le révèle à ses prophètes. Donc, les yeux de Daniel étaient sur Dieu avant d'être sur les circonstances. Et cette nuit-là, il convoque une réunion de prière avec ses trois amis. Les gars, il n'est pas question d'aller au lit tôt. Aujourd'hui, on a une réunion de prière. Verset 17-19. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous voyez, on est une réunion de prière. La réunion est terminée. Il y avait un seul sujet vraisemblablement à l'ordre de la réunion, n'est-ce pas? Seigneur de grâce, épargne-nous, révèle-nous ce songe, ce cauchemar de Nebuchadnezzar et son interprétation qu'on puisse s'exécuter et non pas se faire exécuter. Alors, nous arrivons à notre troisième point, à Dieu soit la gloire. Si ça avait été nous, là, qui avions eu à rapporter le récit, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait allé directement à l'interprétation du rêve. Hein? Mais lui, Daniel, c'est pas ce qu'il fait. Il nous rapporte plutôt la prière qu'il a adressée à Dieu à son réveil. Voyez-vous, il est tellement reconnaissant au Seigneur pour la réponse qu'il a reçue à sa prière qu'il ne peut s'empêcher de laisser monter vers Dieu des louanges en grappe. Des louanges, n'est-ce pas, en bouquet, quoi. Et ça devrait être l'attitude de tout croyant devant la pléthore de bénédictions que Dieu déverse sur nous au quotidien. Et le thème de sa prière, et il nous donne cette prière-là, se présente en trois parties. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rend grâce à Dieu pour deux de ses plus importants attributs, sagesse et puissance. Il commence donc par l'adoration, verset 20. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le Dieu, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » La Babylone de l'époque représentait le siège de la sagesse terrestre hein, et pourtant elle demeurait muette, bien pâle, passez-moi l'expression, bien drabe, devant cette révélation de Dieu. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Un autre attribut divin auquel Daniel fait référence dans sa prière, c'est la parfaite souveraineté de Dieu, le thème du livre. Versets 21 et 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est lui qui est en parfait contrôle des temps et des circonstances, des rois, des petits roitelets, des gouvernements, des empires et le reste. C'est lui qui connaît toutes choses, qui songe les reins et les cœurs. Il connaît la parole avant même qu'elle soit sur notre bouche. Voilà le Dieu qui existe, le Dieu souverain. Dieu ne doit rien à personne alors qu'il distribue sa grâce selon sa très sainte et sage volonté souveraine. Hein? Il existe une sagesse générale qui est donnée aux non-croyants. Et Nebuchadnezzar, jusqu'à un certain point, en est un bel exemple. Il est brillant, Nebuchadnezzar. Hein? Pour les conquêtes qu'il a faites, c'est un grand stratagème. Je devrais dire, c'est un grand stratège, c'est un bonhomme intelligent, c'est un grand stratège, c'est un bonhomme qui sait comment ça fonctionne politiquement. Cependant qu'il ne fait aucun doute que la sagesse spirituelle est réservée au seul peuple de Dieu. Parce qu'au niveau spirituel, Nebuchadnezzar fait du rase-motte, il ne vole pas haut. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous dit, l'homme naturel, hein, l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et finalement, dans la troisième partie de sa prière, Daniel loue Dieu pour la sagesse et la puissance qui lui a été accordée personnellement. Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Il est important de noter que Dieu ne parle plus de cette manière aujourd'hui. Nous lisons effectivement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Hein. Il a parlé par des prophéties, des révélations, des rêves, etc., des théophanies. Donc après, avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'aussi sage qu'ait pu être Daniel, nous, les croyants, nous possédons une sagesse encore plus grande, puisqu'il nous a été donné de connaître et de croire en Jésus-Christ personnellement. Qui est Jésus-Christ? Colossiens chapitre 2, verset 3, le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons accès à tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. De sorte que la question qui vient clore l'émission de ce matin, elle est incontournable et c'est la suivante. Quel est mon rapport de sagesse? Est-ce que j'ai un rapport de sagesse avec la sagesse du monde? Ou avec celle de Dieu qui a envoyé son Fils unique en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Suis-je au rang des pauvres devins chaldéens qui se limitent aux circonstances du monde, à l'horoscope du jour, à tenter par leur propre rationalité d'analyser les circonstances et de tirer des conclusions? Ou suis-je au rang de Daniel et de ses compagnons au bénéfice de la révélation de Dieu? Suis-je en fait en Adam, suis-je perdu, ou suis-je en Jésus pour mon salut? Rappelons-nous que le Christ Jésus est venu, rappelons-nous qu'il est venu et c'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle, il est venu sauver parfaitement par sa vie immaculée et par son sacrifice en croix, il est venu sauver parfaitement ceux qui s'approprient sa vie et son sacrifice par la foi et qui vivent pour lui, qui se convertissent à lui et qui veulent vivre pour Dieu, rechercher sa sainteté et rechercher sa gloire. L'invitation nous est lancée ce matin. À nous de répondre. La balle, comme dirait l'autre, est dans notre camp jusqu'à un certain point. Merci d'avoir été là. Ça finit comme ça aujourd'hui. Mais bien sûr, ça va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Rapidement, notre adresse postale, si vous désirez nous écrire une petite missive, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Et notre adresse courriel, ben, vous l'aurez sur notre site internet. Hein. Et notre site internet, il est à foifm.com, foifm.com. Maintenant, nous avons également des numéros de téléphone, 418-688-0506, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci grandement de votre présence à chaque émission. Sachez que c'est bien apprécié et on sait que le nombre de notre auditoire augmente également. On le sait par les courriels et les téléphones qu'on reçoit. Merci d'être là dans ce petit jardin alors qu'au quotidien, nous nous rassemblons en toute intimité pour sonder la parole merveilleuse de notre Dieu. Que le Seigneur vous comble de ses bontés, de ses bienfaits et de sa paix, et à la prochaine.